Bonjour chers auditeurs d'IDFM Radio Anguin, c'est Isabelle Gonce. J'ai le plaisir de vous retrouver pour l'émission Un bout de chemin ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler des conflits entre parents et adolescents, un sujet qui préoccupe de plus en plus de parents. Face à l'échec scolaire, la rupture de la communication, le refus de l'autorité, le non-respect des règles familiales et parfois même la violence, de nombreux parents se sentent totalement dépassés devant les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs adolescents et parfois avec des enfants plus jeunes aussi. Il y a bien sûr la solution du psy, mais c'est pas la seule solution. Il y a aussi Super Nanny pour les enfants ou Pascal le grand frère pour les ados, bien connu par les émissions télé. Mais il y a des choses un petit peu moins connues. On peut aussi faire appel à un consultant éducatif, un coach qui intervient à domicile directement, comme Hervé Curevert que j'accueille aujourd'hui. Alors Hervé Curevert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant éducateur depuis 15 ans.
Alors j'étais.
Vous étiez.
Pardon, ouais, j'étais.
Ouais.
J'étais dans l'éducation nationale assez longtemps et j'en suis sorti depuis 4 ans.
Alors aujourd'hui, vous êtes consultant éducatif privé,
voilà,
c'est
oui.
Ça? Bon, par ailleurs, vous êtes moniteur de plongée sous-marine et instructeur d'arts martiaux. On va voir en quoi ça peut être intéressant dans votre rôle actuel. Et vous avez créé, il y a environ 6 ans, si je ne me trompe pas, le réseau Consulte Éduc.
Voilà.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie de créer ce réseau?
Alors l'idée m'est venue en passant une douzaine d'années dans un internat éducatif avec des jeunes en profonde délinquance qui étaient placés chez nous par le juge. L'idée m'est venue parce que je me suis dit que peut-être réinvestir tous ces mécanismes éducatifs qu'on a mis en place dans cet internat dans les familles pourrait aider les familles précisément. Et puis accessoirement sortir de l'institution aussi, pouvoir agir de manière beaucoup plus libre, être beaucoup plus créatif dans la mise en place de mécanismes éducatifs. Pouvoir proposer des idées aux gens, aux familles, être efficace rapidement, ce qui est quand même pas trop le cas. C'est plutôt du long cours dans ces internats. On les prend, ils ont 11, 12 ans, on essaie de les amener à un CAP vers 18, 19 ans. Parfois on avait des jeunes qui étaient placés chez nous à l'âge de 15, 16 ans. Donc c'est vraiment du travail de longue haleine. Voilà. Alors que là, l'idée, c'est d'intervenir rapidement chez les gens de manière ponctuelle, d'être pragmatique, efficace si possible.
Donc vous avez commencé ça en parallèle de votre travail en institution au début,
Oui.
Et ensuite vous avez lâché le travail en institution.
Voilà. Donc j'étais en établissement régional d'enseignement adapté, j'étais le seul à avoir un poste mixte à la fois en classe et à l'internat. Donc en classe j'avais des gars de 16, 17, 18 ans qui avaient un niveau cognitif de CM1, CM2 pour les meilleurs.
Ouais.
Oui, mais avec un quotient intellectuel tout à fait normal, ils avaient juste un gros retard scolaire. Donc l'idée c'était de les amener on m'avait bombardé prof d'histoire et de français. Donc en histoire, il fallait que je raconte des histoires.
Oui.
Voilà, quand je leur parlais de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait qu'ils soient sur un champ de bataille, quoi. Enfin bon, il fallait que ça soit imagé et puis français. Et donc j'ai essayé de les amener à notamment à lire des trucs qu'ils auraient jamais lus s'ils étaient pas passés chez nous, quoi.
Et vous arriviez dans le cadre de cette institution à avoir des résultats satisfaisants, à arriver quand même à les entraîner,
alors,
à les motiver un petit peu, ou alors c'était difficile?
Alors chaque année, vous allez rire, mais chaque année, il y avait une punition qu'ils détestaient, une sanction, c'était quand je les privais de lire Molière.
C'est pas vrai?
Si.
Incroyable.
Un truc de fou.
Incroyable.
Alors imaginez.
Comment vous êtes arrivé à
ça? Des gamins qui viennent de toutes les cités d'Île-de-France, qui sont placés chez nous contre leur gré, c'est-à-dire ils ont pas envie d'y être. C'est ça, ou alors c'est le centre éducatif fermé, c'est l'alternative, on va dire.
Ouais.
Ils font des allers-retours, certains entre centre éducatif, entre CEF et puis notre établissement. Bah comment j'arrivais à ça? D'abord je commençais, donc moi mon but à moi c'était de les faire lire. Donc quand en début de cursus on avait un jeune qui me dit ouais non moi je veux pas lire, la lecture c'est nul, tout de suite je sais pourquoi, c'est parce qu'il sait pas lire. Et comme il veut pas se taper la honte,
d'accord.
Voilà, donc je commence à distribuer des exercices à tout le monde sauf à lui.
Ouais. Alors, pour pas le mettre en difficulté.
Non, non.
Le mettre,
non. Tu veux pas lire, pas de problème.
Ok.
Oui, il m'embêtait pas, il me respectait, ça allait très bien. Puis au bout de 3 semaines, un mois, il va commencer à me dire oui mais moi pourquoi j'ai pas le... Tu voulais pas lire. Il va insister, mois et demi passe, je zappe complètement, il n'existe plus pour moi.
D'accord.
Mais je reste bienveillant, je fais quand même attention. Et puis petit à petit, il va me demander, je vais dire, mais tu voulais pas lire, tu veux lire? Et je vais arriver à lui faire dire qu'il veut lire en fait, et qu'il ne sait pas lire.
Ouais.
Voilà, et c'est à ce moment-là que je déclenche le process. Là, je vais lui dire, ok, donc tu ne sais pas lire, tu veux apprendre à lire, t'as super raison, c'est ici maintenant que ça se passe, et je peux t'aider, c'est comme tu veux. Et là, c'est enclenché. Alors je prends l'exemple de Molière.
Vous les faisiez jouer des pièces à partir de Molière?
Non, moi j'ai rien fait, moi. Non. Je leur disais, bon, je vous projetais un film. Donc je prenais L'Avare avec De Funès, Bernard Ménez et Galabru. Enfin, moi je l'ai vu plein de fois, je le connais par cœur. Donc au début, c'est un peu ennuyeux parce que c'est théâtre classique, il y a une scénette entre je sais plus qui et qui, mais non, je sais plus, enfin c'est deux comédiens là, voilà, c'est très très théâtre et ouais. tout, donc le premier quart d'heure les jeunes me disaient mais ouais monsieur c'est long hein, c'est comme ça, et dès que De Funès arrive tout de suite tout le monde rigole parce que c'est un génie cet acteur. Une fois qu'ils l'ont vu 3-4 fois en boucle, inévitablement il y en a toujours un ou deux qui me demandaient est-ce qu'on peut lire la pièce. Je dis, ouais, pas de problème. Donc le lendemain je venais juste avec acte 1 scène 1. Parce que Molière, en fait, c'est super compliqué, comme c'est un niveau de langage très très soutenu, un peu moins pire que Boileau, mais c'est super balèze. Et donc je les provoquais. Je leur disais mais les gars, vous savez même pas écrire vos prénoms, vous lirez jamais ce truc-là, c'est pas possible. Et j'insistais et je m'amusais comme ça, pas les dévaloriser, mais à leur dire qu'ils n'y arriveraient jamais.
Alors mettre un petit challenge, quoi, un défi.
Ah, alors mettre la pression. Et puis quand ils avaient bien insisté, que je les avais bien vannés, un peu chahuté comme ça. Et ben qu'est-ce que je faisais? Je sortais j'avais préparé toute la pièce de Molière. Je leur sortais ça. Ils avaient un exemplaire chacun, y compris celui qui voulait pas lire. Et puis ils lisaient les pièces comme ça. Et puis ils ont lu 4 œuvres de Molière en une année.
Pas mal. Alors c'est ce que vous avez appliqué donc dans une vie précédente, dans votre établissement. Maintenant, j'imagine que vous appliquez un petit peu le même genre de technique, de méthode dans les interventions à domicile. Alors pour en revenir au réseau, donc aujourd'hui vous n'êtes plus tout seul. Vous êtes une quinzaine en France, une dizaine.
Alors oui, j'ai développé un réseau sur une majeure partie du territoire, en tout cas sur les grandes villes, régions, donc l'Île-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, tout le bassin méditerranéen. On a quelqu'un à Nice, à Montpellier, Béziers, Marseille.
Donc vous couvrez à peu près toute la France.
Enfin, non, pas toute la France, mais je dirais la première partie du tableau de Ligue 1 de football.
C'est déjà pas mal. Comment on fait appel à vous en fait? Qui vous contacte? Comment on vous trouve? Comment on vous cherche?
Alors internet, ça marche très bien. Bon, j'ai participé.
Et comment on tombe sur vous? Pourquoi on vient vous voir vous plutôt que d'aller voir un psy finalement?
Ah là, il y a deux questions en une là. Alors, pour répondre à la première question, on tombe sur moi en tapant sur internet problème avec mon adolescent, refus d'autorité. Enfin, on tombe sur mon site et puis on est référencé depuis 2009, donc quel que soit le mot, de toute façon, il y a de fortes probabilités de tomber sur le site de ConsultEduc. Et pour la deuxième question, c'était
pourquoi les gens viennent vous voir vous plutôt que de faire une démarche classique qui serait d'aller voir un psy.
Alors, classique. Pour moi, le psychologue et l'éducateur exercent deux métiers complètement différents. En France, depuis maintenant pas mal de temps, il y a une obédience des psychologues par rapport à l'éducatif. Mais je considère que ce n'est pas leur métier. Comme nous, les éducateurs, quand on commence à faire une confusion des rôles et des gens et qu'on se met à faire de la psychologie, je trouve qu'on est assez mauvais. J'ai toujours cet exemple en tête, une jeune fille, une fois, enfin au début, quand j'ai commencé, qui était anorexique, qui se scarifiait et puis qui vivait dans un endroit magnifique au Vésinet. Et j'ai rien trouvé d'autre à lui dire que mais t'es bête ou quoi? T'as vu comment t'es belle comme un cœur là où tu vis? Enfin, en fait, je suis enfoncé plus qu'autre chose. Et là, il aurait fallu un psy. D'ailleurs, je l'ai dérivé vers un psy, une psy avec laquelle on travaille.
Donc il y a des cas où il y a des limites à l'éducation, où là, il faut vraiment un psy.
Voilà. Par contre, un jeune qui est dépressif, qui est anorexique, qui se scarifie, il faut un très bon psy, pas un éducateur.
Parce que là, c'est quand même des problèmes compliqués et lourds. Donc vous avez vraiment des limites. Alors quels sont justement les cas où vous pouvez intervenir et les cas où vous ne pouvez pas intervenir?
Tout ce qui va être refus d'autorité, addiction au cannabis, échec scolaire, décrochage scolaire, tout ce qui a un rapport avec l'éducatif, avec l'autorité, toutes ces choses-là.
D'accord.
Un positionnement éducatif d'une famille recomposée, d'un beau-père, d'une belle-mère, d'une maman seule, d'un papa seul. C'est très variable.
Et en pratique, c'est des jeunes de quel âge à peu près pour lesquels on vous appelle?
Ce matin, j'ai reçu un mail pour un enfant de 3 ans.
3 ans? Ah ouais. Oui, c'est pas seulement les adolescents, ça peut être de jeunes enfants.
Voilà,
également.
Les mécanismes sont les mêmes de toute manière.
Ouais, d'accord.
Qu'il ait 3 ans ou 15 ans, c'est exactement la même chose.
Ouais, faut commencer tout de suite avec les bonnes bases éducatives et les conserver.
Un petit canevas, un petit schéma.
Bon, j'imagine que quand même le gros des interventions, ça concerne des ados, non?
Oui.
Entre 12 ans, 18 ans, 20 ans.
Oui, vous voyez, hier, j'avais un enfant de 11 ans et demi, et puis là, tout à l'heure, je vais aller dans une famille, il a 17 ans. Donc c'est une amplitude assez large.
Est-ce que vous avez également des gens qui vous sont adressés par les réseaux éducatifs justement un relais auprès des profs
et
tout ça?
On est vraiment ConsultEduc, c'est une société anonyme simplifiée, une SAS, donc c'est vraiment dans le privé. Et on n'a plus aucun rapport avec les institutions et avec le domaine public. Moi j'en sors du domaine public précisément.
Oui, donc c'est vraiment des gens qui viennent de leur propre chef pour vous contacter et qui assument cette démarche. D'après ce que vous me disiez, vous êtes souvent perçu comme le dernier recours. Quoi. C'est des gens qui ont tout essayé.
C'est ça.
Parfois, il y a eu des années de psy, etc. Et ils viennent vous voir.
Voilà.
D'accord.
Parce que le, comment dire, le, l'axe prioritaire de consulter Duc, c'est qu'on soit réactif. Là, on est vendredi. Tout à l'heure, j'ai un appel. Si j'ai de la dispo pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, enfin, la semaine prochaine, voilà. Faut qu'on soit sur place rapidement.
Alors la particularité, c'est que vous allez à domicile chez les gens,
voilà,
et vous intervenez donc plusieurs.
Voilà, il y a un petit format. Hein. La première visite dure environ 1h30, 2h, et c'est une visite au cours de laquelle on essaye d'aider les gens, de mettre des choses en place, mais de manière très concrète. Nous, notre diagnostic, ça va être 5-10 minutes, un quart d'heure. On va percevoir le ou les problèmes assez rapidement. Puis mettre des choses en place en fonction de.
Alors dites-moi justement, bon, parlons concret. Là, hier, un appel pour un enfant de 3 ans. C'était quoi le problème?
Je sais pas. Je l'ai eu ce matin, l'appel.
Ah, vous l'avez eu ce matin, donc là, vous savez pas encore.
Pas encore.
Mais, je sais pas, un cas que vous avez en cours actuellement avec un ado, ce que pourriez-nous.
Alors, ce qui me vient à l'esprit, alors lui, oui, il a 12 ans, il est en 5e, physiquement, il a 16 ans, dans sa tête, il a 12 ans, il vit avec une maman seule, qui est d'origine roumaine, le papa est amérindien, qui vit aux États-Unis.
C'est compliqué, déjà.
C'est un peu compliqué. Et il a eu une petite tendance à vouloir prendre le pouvoir sur sa mère. Donc, on a mis des choses éducatives en place. On a mis des mécanismes éducatifs en place. On pourra en parler tout à l'heure, si vous voulez. C'est un système de carottes, quoi. Il fait une bêtise et une sanction. Mais il faut que la sanction, elle soit appropriée. Il faut que ça soit justifié.
Ouais.
Il faut que ça soit proportionné.
Donc par exemple, ça peut être quoi, une sanction proportionnée
Un truc tout bête, je veux dire, il parle mal à sa mère, elle lui sucre le téléphone portable une journée.
Mais il faut que vous soyez derrière au départ pour soutenir la mère, parce que j'imagine qu'elle a essayé de faire ce genre de choses,
Ça
n'a pas
marché. Pour lui donner les idées, ça c'est la phase numéro une. Si ça fonctionne pas, ça peut, au cas où il y a une maman seule, ça peut être moi qui confisque la Xbox, le téléphone portable ou la PlayStation avec la bénédiction de la maman, ce qui fait qu'il y a des moments dans mon bureau, j'ai 3 Xbox, 4 PS, 2 téléphones. Donc les gens me signent une décharge, je les prends et puis je les ramène quand le gamin ou l'ado se comporte mieux. Ça c'est au cas où il y a une maman seule, par exemple avec un ado de 16-17 ans qui a développé son 1m70 et ses 65 kilos.
J'imagine que quand il y a un père à la maison, c'est quand même un peu plus facile par rapport aux problèmes d'autorité, non ?
Oui.
Il y a malgré tout des jeunes qui se permettent d'être violents avec leur père, par exemple ?
Beaucoup moins, beaucoup moins, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, il n'y a pas non plus à chaque problème, il n'y a pas une réponse immédiate miracle là tout de suite maintenant. Il faut aussi voir le vécu du papa. Pourquoi il se comporte comme ça. Il me vient à l'esprit un papa qui avait été élevé. Alors c'est un peu une caricature, mais c'est un homme assez petit de taille, qui nous voit assez fluette, quoi. Qui a été élevé par 4 sœurs et sa maman, qui a pas beaucoup d'autorité sur ses 3 fils. Et la maman, elle, par contre, c'est une dame qui prend beaucoup de place, qui a une grosse voix, mais elle y arrive pas, donc on a dû ajuster. Là, ça a pris quelques mois, quand même.
Alors, du coup, j'ai envie de vous demander, vous, personnellement, si vous voulez nous dire quelques mots sur votre histoire et pourquoi vous êtes tellement motivé, finalement, pour aider les ados, puisque vous m'avez confié tout à l'heure que c'était pas votre premier métier.
Ah, oui.
Que vous avez fait quelque chose de complètement différent avant. Donc, pourquoi cette
comme toute personne qui travaille dans l'éducatif, j'ai eu un parcours un petit peu chaotique quand j'étais ado. Forcément.
Vous étiez un ado difficile.
Oui, je n'ai rien fait en termes de délinquance, mais bon, je travaillais mal à l'école, j'ai redoublé 2 fois, voilà. Je préférais transgresser, m'amuser que étudier. Donc ensuite, après être parti en voyage, deux bonnes années, j'ai fait un truc qui sert à rien, j'ai passé un diplôme d'expertise comptable. Et puis j'ai commencé à travailler comme commissaire aux comptes pendant 2 ans, ça me plaisait pas, et ensuite j'ai voulu faire de la musique. Et pour ce faire, je me suis engagé dans l'éducation nationale comme professeur des écoles à l'époque. Et pour faire 10 ans plus tard, quand j'ai voulu démissionner, l'inspecteur d'académie qui s'occupait de l'enseignement adapté a pris ma démission, l'a mise à la poubelle. Il m'a dit qu'il cherchait des gens atypiques pour des jeunes atypiques. Et il m'a demandé si les établissements spécialisés m'intéressaient. J'ai dit oui, j'y suis resté 12 ans.
Ok,
voilà.
Donc vous les connaissez de près, ces ados un peu difficiles, et vous arrivez à vous identifier un petit peu avec eux.
Ah non, je m'identifie pas du tout, non.
Pas du tout.
Surtout pas même. Faut toujours être très distancié.
D'accord.
On peut avoir des moments de proximité. Enfin là, je pense quand on est en internat comme ça en institution, on a des temps de vie qui peuvent être assez intimes.
Vous partagez les soirées avec eux et tout ça quand vous êtes en internat.
On a plus un rôle de cadran, parfois de confident, mais. Faut vraiment faire attention à la distance.
Faut surtout pas être copain, quoi.
Oula, surtout pas.
Ça, c'est le gros
jamais,
danger.
Jamais, surtout pas.
On peut, en tant que parent non plus, évidemment.
Ah non, je suis pas d'accord. Attendez, si vous êtes une maman ou un papa, vous pouvez être le parent pote.
Oui.
mais pas trop. Le
oui,
parent
pas trop, quand même.
Policier, mais pas trop. Le parent complice, mais pas trop. Voilà, faut,
ça dépend
faut
des moments, ouais.
Voilà. Ah oui, c'est sûr que le papa copain avec son fils, c'est, ou la maman copine avec sa fille, c'est mort.
Bon, le temps passe vite, on va faire une première pause musicale. On écoute Dutronc. On est fais pas ci, fais pas ça.
Ouais. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, à dada, prout-prout cadet, à cheval sur mon bide. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pampant tu tues. Fais pas ci, fais pas ça, à dada, prout-prout cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça, à dada, prout-prout cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon t'entends tu fais pas ci, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas ci, fais pas ça, à dada, prout-prout cadet, à cheval sur mon billet. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas ci, fais pas ça, à dada, prout-prout cadet, à cheval sur mon billet. Vous en faites pas les gars, vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça, fais pas ci, fais pas ça, fait pas si, fait pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là, la 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 la.
La la la, la 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 la, vous êtes toujours sur IDFM avec Isabelle Gonce et Hervé Curovert, mon invité d'aujourd'hui, qui nous parle de coaching éducatif à domicile.
Hein enfin, oui, oui.
Alors, vous,
consultant
parents,
éducatif,
qui avez
j'avais appelé ça à l'époque.
Comment?
J'avais appelé ça consultant éducatif.
Consultant éducatif.
Voilà, on nous consulte
chic
pour des problèmes éducatifs.
Voilà. Et votre société s'appelle Consulte Éduc.
Voilà, hein, je l'ai intelligemment appelé Consulte Éduc,
ah,
pour
c'est
le coup.
Bien, hein, c'est bien. Alors, les parents qui ont des problèmes avec leurs adolescents, qui ont des questions à poser, profitez-en, appelez-nous au 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22, n'hésitez pas, Hervé Curovert se fera un plaisir de répondre à vos questions.
Mmh, avec plaisir.
Alors, revenons-y à votre fameuse méthode. Comment ça se passe pour arriver à, pour intervenir? Donc, vous venez une première fois à domicile chez les gens.
Alors, c'est comment pas ça proprement se passe parler d'une méthode, mais c'est un mode opératoire. Je préfère appeler ça comme ça. Donc, on nous contacte, quelle que soit la ville ou la région. Donc, on vient à domicile. La première visite dure à peu près 1h30, 2h. Et c'est une visite au cours de laquelle on va essayer d'aider les gens, de mettre des choses en place. Ensuite, il y a des visites de suivi qui sont un petit peu plus courtes, qui durent à peu près 1 heure, au cours desquelles on voit ce qui a fonctionné. Et on ajuste ce qu'il y a à améliorer. Voilà, donc est-ce qu'on revient dans une semaine, dans 10 jours, dans 2 semaines, c'est vraiment au coup par coup. C'est vraiment,
alors lors de cette première visite justement, mettons que vous êtes appelé pour, je sais pas moi, un papa, une maman qui ont des problèmes avec leur garçon de, ouais, de 15 ans, vous rencontrez qui et comment?
Alors d'abord les parents.
Oui.
Ensuite l'ado qui peut ne pas être prévenu.
D'accord.
Parce que souvent le cas d'ailleurs, 9 fois sur 10 il est pas prévenu, et à nous d'établir le premier contact.
Parce que bon, les parents se disent si on le prévient il va se débrouiller pour pas être là, il va s'échapper.
Il va s'en aller, forcément. Il n'a pas envie. Pour lui, tout va bien en général.
Ouais.
Surtout ceux qui sont dans la toute-puissance.
Donc vous le voyez dans sa chambre, dans le salon.
Ouais, dans sa chambre, dans le salon. Des fois, si à 15h il dort encore, on peut le réveiller gentiment. Voilà. Non, mais on établit un contact simple et tout à fait sympathique. Hein. On n'est pas là pour hurler dessus. Et,
donc d'abord les parents, ensuite le jeune seul, ensuite les deux en même temps.
Non, alors ensuite, en général, c'est des briefings avec les parents en fonction de. Enfin. Il y a tous les cas de figure possibles. C'est soit on met des choses en place avec le jeune directement, soit voir le jeune, ça peut nous permettre de jauger un petit peu comment lui il appréhende les choses. Je prends l'exemple de la toute-puissance. Il est heureux, il fait ce qu'il veut. Bon, bah, je voulais juste m'assurer qu'il ait conscience qu'il est dans la toute-puissance ou pas.
Il y en a de plus en plus des enfants comme ça et des jeunes comme ça qui sont un peu enfants rois, quoi.
Pas forcément, non. Ça, c'était juste un exemple. Mais, après, l'idée, c'est de remettre de l'autorité.
Ouais.
Elle est là, la difficulté.
Alors, par exemple, lors de cette première entrevue, vous avez tout de suite des objectifs qui sont fixés, vous présentez un petit peu votre manière de fonctionner, est-ce que c'est, il y a déjà des choses qui sont mises en place concrètement?
À la fin?
Oui.
De l'entrevue?
Oui.
Ah oui, oui. Bah, tout à l'heure, je parlais de pragmatisme.
Mm-hmm.
On est en plein dedans. C'est pour ça que j'ai besoin de gens très expérimentés. Pour pouvoir, il y a que l'expérience qui peut nous amener à mettre en place des choses rapidement.
Vous voulez dire parmi les gens qui travaillent
parmi
avec
les éducateurs,
vous,
les éducateurs, toute l'équipe, ouais. Et on a une éducatrice d'ailleurs.
Ouais.
Mais voilà, donc c'est, on est tous très expérimentés, on est tous en mesure de pouvoir agir, intervenir dans l'instant.
Donc, qu'est-ce que vous pouvez fixer comme objectif, par exemple, à l'issue d'un premier rendez-vous comme ça avec un jeune qui est dans un refus d'autorité, qui fait que ce qu'il veut.
Alors là, c'est pas avec le jeune qu'on va fixer des objectifs, ouais. Puisque lui, le sien, son objectif, c'est de faire ce qu'il veut. Puis ouais. Plus ça va durer, plus il sera content. S'il peut jouer à la PlayStation pendant 8 heures d'affilée et à des jeux qui sont pas de son âge, donc je vais aider les parents à mettre en place ce que j'ai appelé les mécanismes éducatifs, en fait. Alors ça, c'est vraiment que de l'expérience. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne.
Oui, bien sûr, on est là.
Alors à mon sens, il y a 5 phases. Il y a d'abord une règle, la fixation de la règle. Mm-hmm. Pourquoi on fixe cette règle-là ? Du fait que il y a une bonne raison, l'ado va la comprendre. D'ailleurs, c'est Saint-Exupéry qui disait que l'autorité repose sur la raison. D'accord ? Mmh. Souvent, je dis aux gens que s'il n'y a aucune raison d'interdire, faut autoriser. Mmh. Donc, toutes les familles qui nous appellent doivent affronter les transgressions de leurs enfants. Donc l'ado va transgresser. Il n'obéit pas à la règle. D'accord ? La limite est franchie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Une sanction. Direct, comme le code de la route. 130 km/h sur l'autoroute, ça va, 131, ça va déjà plus. Donc la sanction, pour nous, c'est une conséquence naturelle de la transgression. Et j'apporte une précision très très importante, c'est que la sanction, ça doit être une promesse, pas une menace. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est-à-dire qu'on doit vraiment l'appliquer, c'est
ouais,
ça que vous voulez dire ?
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, si tu continues, je te préviens, ouais. Je vais faire ci, je vais
puis
faire ça,
fait,
je vais faire ça,
rien.
Je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Et finalement, vous faites partie du paysage sonore de l'ado, ouais. Il vous croit pas une demi-seconde et il s'en fiche complètement de ce que vous lui... de la menace que vous brandissez. Alors que si c'est une promesse, si vous lui dites voilà, si tu fais ça, si t'es pas capable d'éteindre ta PlayStation à 21h, y a plus de PlayStation pendant une semaine.
Il faut tenir.
Bah oui. Mm. Donc la sanction doit être adaptée dans le temps et dans l'intensité. Alors, faut pas faire trop longtemps, faut pas faire trop fort. C'est variable. Je me souviens d'un papa qui avait confisqué le téléphone portable de son fils de 16 ans pendant un an.
Oula.
Il lui avait dit, tu l'auras pas pendant un an.
Oui, c'est un peu disproportionné.
Donc, pour un truc même pas trop grave, je sais plus ce que c'était. Donc, au bout de 3 semaines, qu'est-ce qu'il a fait, l'ado ? Il s'est acheté une puce, je sais pas quoi, là, un truc jetable. Mm. Puis voilà, il avait un téléphone portable. Alors, par exemple, si vous supprimez à votre enfant quelque chose, un droit, un accès à un plaisir, une console de jeu, un téléphone, si on part sur une semaine, cette semaine, c'est ce que j'appelle le temps de l'absorption. C'est-à-dire, c'est le temps pendant lequel il y a la frustration. C'est super important, la frustration. Mm-hmm. Et ensuite, quand vous lui rendez, par exemple, le téléphone, c'est la cinquième phase que j'appelle la reformulation. Vous lui rendez, mais avant de lui rendre, vous lui dites, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je t'ai pris ton téléphone?
Ah
pourquoi
oui.
Je t'ai pris ta PlayStation?
Pour voir si c'est bien intégré.
Pour voir s'il a bien compris.
Oui.
Même si son seul but au gamin, c'est de récupérer son truc. Mais au moins, le fait de le dire, il va commencer à se conscientiser.
Il s'approprie un petit peu, quoi. Ouais, ça devient
voilà.
Plus...
Mmh. Voilà. Et le fait qu'il l'ait reformulé, ça permet de conscientiser. Et ça, cette phase-là, c'est quand on la fait d'abord, en première intention, juste après la transgression, ça s'appelle faire la morale et ça sert à rien. Mm. C'est en cinquième phase qu'on doit faire
ça.
Ah
oui, il faut qu'il l'ait vécu, qu'il l'ait expérimenté dans sa chair.
Exactement.
Et... D'accord.
Mm-hmm. Exactement.
Ok, donc ça, c'est la méthode globale qui s'applique à peu près à toutes les situations, plus ou moins.
En termes de refus d'autorité, oui.
Ouais.
Voilà.
Mm-hmm.
Bon, après, je vous dis, ça n'obéit à aucun courant de pensée. Aucun grand auteur connu, c'est
ouais,
juste
c'est vraiment
l'expérience.
Pragmatique, quoi,
voilà,
c'est l'expérience.
C'est...
Ouais.
Donc je récapitule. 1, la fixation de la règle. 2, la transgression. 3, la sanction, qui doit être une promesse. 4, l'absorption, le temps de la frustration, en fait. 5, la reformulation.
D'accord.
Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi?
Donc là, on voit bien où est le bâton, hein, mais on voit pas trop la carotte, par exemple, ce que vous utilisez.
Si, la carotte,
aussi,
c'est récupéré,
oui, effectivement. Donc c'est la bonne vieille méthode du bâton et de la carotte, finalement.
Ouais, mais de manière structurée.
Mm-hmm. Ok, la transgression, de toute façon, elle vient toujours, quoi. On interdit, on est sûr qu'il y aura la transgression.
Heureusement.
De la part de l'ado, ouais, c'est normal.
Heureusement.
Ouais.
Faut bien transgresser un peu.
Alors, est-ce que dans ce genre d'intervention, vous avez des jeunes qui refusent de vous voir? Est-ce qu'il vous est arrivé?
Ça peut arriver, oui.
Ouais.
Oui.
C'est rare?
Oui, c'est rare, mais ça peut arriver.
Mmh.
Ça peut
dans
arriver.
Dans ces cas-là, on peut rien faire.
Alors, au tout début, je commettais l'erreur d'insister lourdement.
Mmh.
Et puis, avec l'expérience, il veut pas me parler. Je vais revenir une deuxième fois.
Mmh.
En général, ils se détendent. Donc, la deuxième, troisième fois, ils voient qu'on lâche pas, qu'on est là.
Est-ce que vous observez des erreurs fréquentes qui sont commises par les parents? Est-ce que tout ça finalement, ça s'explique par des attitudes, des bon, on peut pas être des parents parfaits évidemment, mais est-ce qu'il y a des grosses tendances, des choses vraiment des attitudes?
Bah, je parlais de cette histoire de sanctions qui doit être une promesse et non pas une menace. Ouais. Ça, le fait de menacer en permanence et de jamais passer à l'action, ça c'est une grosse erreur. Vous avez aussi tous les parents trop copains. Vous avez aussi ce que j'ai beaucoup rencontré chez les beaux-pères et les pères, et ils n'osent pas mettre une bonne gifle à leur gamin de temps en temps.
Ah, vous êtes pour la gifle, vous ?
Ouais. De temps en temps, il y a le gros débat sur la fessée. Mais...
Ouais.
Parce qu'ils estiment que c'est de la violence physique, et nous on estime, en tout cas moi j'estime que c'est une limite physique. Mm-hmm. Ce qui est totalement différent, parce que quand on doit faire ce genre de choses, il faut que ce soit complètement maîtrisé.
Faut pas se laisser aller à la colère.
Non.
Faut vraiment savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et que ça reste exceptionnel quand même, je suppose.
Oui, de temps en temps, de temps en temps. Mais vous voyez les cinq phases que j'expliquais des mécanismes éducatifs, de temps en temps.
Voilà. Ah, parce que ce que vous dites, c'est
pour
que dans votre
graves.
Expérience, il y a énormément de, enfin énormément, dans vos témoignages, là, on voit quand même beaucoup de jeunes qui sont vraiment violents physiquement
oui.
avec leurs parents, quoi, notamment
oui.
avec leur mère qui leur tape dessus,
voilà.
qui les insulte.
Voilà.
C'est quand même assez dur, quoi.
Mais oui. Alors sur des ados qui tapent leur mère, quand je conseille aux mamans de tout simplement aller voir la police, oh non quand même, je peux pas faire ça, c'est mon fils. Puis après je leur dis bah oui, mais alors par la suite il va falloir qu'ils trouvent une femme ou une copine qui pourront taper aussi, puisque quelque part vous allez vous l'autoriser si vous ne réagissez pas. Je sais, c'est super facile pour moi de dire ça à une maman parce que ce n'est pas la chair de ma chair, mais voilà, il y a quand même rappel à la loi, on peut pas frapper sa mère. Et justement, quand il y a un père qui est, on va dire, satellitaire, qui s'occupe pas trop de l'ado et qui entend, qui a ouï dire que son fils a frappé sa mère, faut vraiment qu'il intervienne.
Ouais. Est-ce que vous impliquez les frères et sœurs quand il y en a?
Jamais.
Est-ce que c'est important? Jamais. Non.
Très très rarement.
C'est pas un système pour vous qui fonctionne ensemble, non?
C'est vraiment. Parce que le rôle du frère ou de la sœur, c'est juste d'être un frère ou une sœur. Ça peut arriver, je peux m'en servir comme point d'appui. Par exemple, un grand frère de 24-25 ans qui est en fin d'études et qui est encore chez les parents pour canaliser un gamin de 14-15 ans avec une maman seule, ça peut arriver. Ou un papa handicapé. J'ai eu le cas il y a pas longtemps.
Ouais.
Un monsieur, voilà, qui a vraiment des handicaps assez sévères physiquement. Et puis un gamin de 14 ans qui prend le pouvoir. Donc j'ai demandé au grand frère de, je crois il avait 21 ans, de canaliser le petit, quoi.
Ok. Sinon, il faut éviter de les mêler
oui,
à tout
oui,
ça.
Je pense que,
les impliquer,
déjà qu'en général, la fratrie subit les conséquences du déséquilibre familial. Alors
en pratique, votre intervention, bon, vous êtes pas spécialement dans la douceur, hein, d'après ce que j'ai compris. C'est plutôt la méthode.
Non, ça peut être assez doux aussi. Ça dépend du degré de gravité. Mais voilà, hier j'étais avec des gens dont l'enfant de 11 ans et demi frappe sa mère. Pied, point.
11 ans et demi.
11 ans et demi, c'est une crevette physiquement en plus. Et la dame, elle a des cocards.
Alors qu'est-ce qui se passe pour que ce gamin frappe sa mère, quoi? Quelles sont les circonstances qui font qu'on en arrive là?
Alors, la maman a vu tout le corps médical, psychiatre, pédopsychiatre, neuropsychiatre, toute une batterie de tests dans plusieurs hôpitaux à Paris. Et en fait, cet enfant, donc de 11 ans et demi, qui est en 6e, joue à Call of Duty.
Ah oui.
GTA 5, c'est ultra violent pour des gamins comme ça. Et ça lui retourne le cerveau. Ça fait deux ans qu'il joue à ça, 6 heures par jour. Tout simplement.
Ouais.
Et d'ailleurs, j'ai à ce propos de Call of Duty, donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un jeu de guerre. C'est un gros jeu de guerre. Et je discutais une fois avec un papa, donc 45 ans, qui jouait Call of Duty, et il me confiait que lui ne joue pas le soir parce qu'il a du mal à s'endormir.
Ah oui.
45 ans, chef d'entreprise.
On peut imaginer ce que ça donne sur un jeune cerveau de 11 ans et demi, quoi. 6 heures par jour.
Et donc, il est tout blanc avec des cernes parce qu'il joue jusqu'à pas d'heure, il arrive pas à se lever le matin. Enfin, c'est terrible.
Et la mère arrive pas à cadrer. Et alors, dans ces cas-là, votre intervention, comment vous faites? Vous confisquez carrément la...
Alors, moi non.
La PlayStation?
Moi non. Mais justement, le mot pragmatique tout à l'heure, ça me conduit à essayer de trouver des points d'appui. Ils sont séparés, la maman et le papa. Le papa habite à 5 minutes. Le papa est pas très très investi. Donc hier, l'idée, c'était de lui faire prendre conscience qu'il faut absolument qu'il aille récupérer son gamin, enlever tous les écrans, le prendre chez lui, et que le gamin rende les clés de chez sa mère à sa mère, et que le père s'en occupe et le cadre.
Donc de faire une période de sevrage, en tout cas, de quelques semaines ou...
Ah oui. Et éventuellement, dans quelques semaines, si il s'est bien comporté la semaine, il pourra jouer quelques heures le week-end. Mais pas à GTA et pas à Call of Duty.
Ah d'accord.
Reprends plutôt Lego Star Wars ou des trucs un peu plus...
Ouais, mais là, il vous faut vraiment la collaboration des deux parents.
Ah oui, mais moi je suis consultant éducatif.
Alors parfois vous êtes amené à demander des bulletins, à demander des documents, enfin à être
oui.
À demander parfois même des, il peut y avoir des problèmes avec la police parfois pour certains, j'imagine.
Oui, aussi.
Déjà eu des démêlés avec la police, donc vous avez accès à tous ces documents.
Bah les parents nous les montrent.
Oui.
Voilà. Mm-hmm. Mais par exemple les bulletins scolaires, c'est toujours intéressant de voir un petit peu le positionnement de l'enfant ou de l'adolescent, et puis il y a plusieurs façons de lire un bulletin scolaire.
C'est-à-dire
Vous avez un enfant qui est dans un internat, enfin dans une école d'excellence ou un grand lycée parisien, et puis là, je sais pas moi, il a 11,5 de moyenne en maths.
Mm.
Et puis le papa, il est ingénieur, il a fait polytechnique, mais il trouve ça pas terrible. Je peux quand même lui faire remarquer que la moyenne de la classe c'est 11, alors il s'en sort pas si mal, son fils.
Mm.
C'est un exemple comme ça.
Ah oui, vous voulez dire qu'on a toujours tendance à voir ce qui va pas finalement, hein.
Voilà.
Au lieu de commencer à dire ce qui va bien, les parents, les exigences.
Sur un bulletin scolaire, ce qui est intéressant, c'est voir la moyenne de la classe et les notes médianes.
Oui.
La plus faible et la plus forte. Et si vous avez, par exemple, en français, une classe qui a, je sais pas, moi, 9,8 de moyenne générale, en quatrième, il y a deux options. Soit toute la classe, ils sont tous abrutis. Soit le professeur pense qu'il enseigne à Cagnes, Hippocagnes et à Sciences Po. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bon, je prends des exemples comme ça un petit peu extrêmes.
Mais... Bien sûr. Alors revenons-en à votre méthode. Généralement, donc vous êtes amené à intervenir combien de fois en moyenne? Vous prévoyez combien de rendez-vous?
Alors c'est une question que les gens me posent fréquemment au téléphone. En fait, il y a autant de cas particuliers qu'il y a de cas. Donc je peux pas répondre. En une fois, on peut aider les gens et puis parfois on peut avoir des suivis sur 2 ans.
Oui, ça peut aller jusqu'à 2 ans éventuellement,
ou plus.
À raison de combien de rendez-vous? Une fois par mois? Une fois par semaine?
Non, alors ça peut être... C'est pareil, c'est variable. On va dire au minimum...
L'idéal, c'est quoi pour vous, la durée... Enfin, je veux dire la fréquence?
Je peux pas répondre à cette question. Ouais. Ça dépend tellement de la problématique, de l'environnement familial. Maman seule, papa seul, famille papa-maman, famille recomposée, belle-mère, beau-père. Tout dépend de la problématique.
Bien sûr. Vous avez beaucoup de problèmes liés aux familles recomposées, justement, à la place du beau-parent, ou au manque de place du beau-parent, justement.
Alors, il y a pas mal de beaux-pères qui ont beaucoup de mal à se positionner, pour plusieurs raisons, peut-être. C'est que eux-mêmes, n'ayant peut-être pas d'enfants, ont du mal à éprouver ce que pourrait éprouver un père. Vous avez le cas de figure où la maman va faire un barrage entre l'enfant et son compagnon. Alors là, c'est rédhibitoire.
Ah oui, là, on peut rien faire.
Bah, non.
Ouais.
Enfin, elle va trouver qu'il est trop sévère, trop dur, trop strict ou pas assez. Enfin, et puis dès que monsieur va commencer à faire quelque chose de son propre chef, elle va commencer à le contrecarrer, peut-être et le pire devant l'enfant. Donc, alors voilà. Tiens, j'en profite d'être à l'antenne pour dire qu'une des erreurs de base à ne jamais faire, c'est se contredire. Devant l'enfant, devant l'ado, jamais.
Il faut toujours être solidaire, quitte à en discuter le soir au lit.
Exactement.
Après.
Au lit ou ailleurs,
Il
faut jamais se contredire devant un ado, devant un enfant.
Sinon, ils en profitent, quoi. Ils rentrent dans la
leur métier à eux, c'est s'engouffrer dans la faille.
Hein. Oui.
Ils sont formatés pour ça.
Ok. Quelques autres règles de base, comme ça, que vous pouvez nous donner?
Déjà, celle-là, c'est déjà pas mal.
Ouais,
il y a celle-ci, il y a ne jamais être trop proche, mais ça, c'est plus valable en institution. Bon, les parents, faut forcément être proches, c'est mieux.
Mm-hmm.
Non, vraiment, la règle d'or, c'est celle-ci.
D'accord.
Vraiment.
Bien, on écoute à nouveau de la musique, c'est quoi cette fois-ci?
Là, j'ai choisi un titre d'ACDC, parce que d'abord, j'adore ACDC, et ensuite, parce que j'aime ACDC.
Eh ben d'accord, c'est une raison suffisante, on y va.
Never gonna give it for free.
êtes toujours sur IDFM Radio Anguien avec Isabelle Gons et mon invité d'aujourd'hui, Hervé Curauvert, qui est, alors on dit consultant éducatif.
Voilà, hein, c'est consultant ça. Consultant éducatif. On nous consulte à domicile. Pour des conseils éducatifs.
Voilà. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous appeler pour poser des questions si vous le souhaitez ou pour témoigner au 01 34 12 12 22. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook en tapant Isabelle Gons. Voilà, avec toutes mes émissions. Alors vous avez un site, vous, Hervé Curauvert, et alors il y a plein de témoignages de gens que vous avez aidés. Donc,
quand je regarde. Donner le nom du site.
Oui, oui, oui.
Consultant-éducatif.fr.
Voilà.
Tout simplement. Alors, consultant-éducatif.fr.
.fr. Ok. Alors, on regarde les titres. Refus d'autorité, non-respect des règles, déscolarisation, problème de cannabis, refus d'autorité, ça, ça revient souvent, addiction aux jeux vidéo, insultes, quoi d'autre. Enfin bon, c'est toujours
violence
un peu
physique,
les.
Violence physique, parfois.
Violence physique aussi, ouais. Décrochage scolaire, c'est toujours un peu les mêmes sujets qui reviennent finalement,
hein. Ah, oui.
Et avec des parents qui sont quand même très satisfaits de vos interventions. Je vois Madame M, par exemple, qui nous dit « Vous avez su non seulement établir de façon quasi instantanée le contact avec mes deux fils âgés de 13 et 15 ans, mais aussi vous faire écouter d'eux. Étrange alchimie que celle que vous avez su créer, mais elle est tout à la fois de respect, d'écoute et de parler vrai. Il faut dire qu'élever seul deux garçons n'est pas toujours facile pour une mère. Les mises au point et ajustements que vous m'avez aidé à mettre au point se sont avérés payants. Merci. » Voilà, il y en a un autre, Damien, 15 ans, il a rendu l'argent et m'a juré de ne plus voler. Bah oui, il y a ça aussi. Pour le cannabis, on a besoin d'argent. Les notes se maintiennent au-dessus de la moyenne et il va en cours. L'ambiance est à la maison, plus de violence et nous arrivons à discuter. Mm-hmm. Donc vous obtenez vraiment des résultats très,
c'est
très probants, hein, ouais. Ouais, alors c'est le but, oui. Et ça, ça peut aller parfois très vite, quoi. Il suffit parfois de quelques séances.
Parfois très vite et puis parfois moins vite. Mm. Après, ouais. Oui.
Et puis il peut y avoir des rechutes peut-être aussi parfois
aussi,
et, des gens qui
voilà. Alors curieusement tant qu'on est là qu'on vient régulièrement ça va bien et puis quand on commence à espacer ça peut rechuter donc on nous rappelle à nouveau.
Donc au début ça peut être toutes les semaines, ensuite ça peut s'espacer une fois par mois
voilà.
Et puis et vous faites un suivi à distance genre vous revenez 6 mois après pour voir comment les choses ont évolué
ou... Alors non parce que quand on nous rappelle pas ça veut dire que ça va.
Oui.
Et puis on a tellement de demandes qui arrivent que les journées ne font que 24 heures.
Oui, c'est vrai, vous êtes complètement que une petite quinzaine pour toute la France et apparemment il y a de plus en plus de demandes, hein.
Voilà.
Est-ce que vous constatez des grandes différences entre les garçons et les filles? Je suppose que vous avez plus souvent des interventions pour des garçons.
Oui, il y a plus souvent des interventions pour les garçons. Après, en termes de problématiques, non, c'est à peu près. La seule chose qui peut différer, enfin être un petit peu différente, c'est les scarifications. C'est plus féminin quand même.
Ah oui.
Ouais, les scarifications et l'anorexie.
Mais là, comme on disait, c'est un petit peu la limite de la.
Ah là, moi, mon job, ça consiste juste à faire en sorte que l'adolescente veuille bien aller voir la psychologue avec laquelle on travaille en Ile-de-France.
Ouais.
J'ai bien dit la psychologue.
J'en ai trouvé
une seule.
Femme, ouais.
Non, c'est pas ça. C'est que quand j'ai commencé à quand j'ai créé Consulte Éduc, je voulais me faire un réseau de psy. Et en 2 semaines, j'en ai rencontré 30. J'en ai retenu une seule.
Ah oui.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Très sélectif.
Oui.
Donc, les garçons et les filles. Alors, il y a aussi les problèmes de drogue avec les filles, les problèmes de violence aussi, violence physique.
Oui, alors c'est lié souvent. Hein. C'est quand même savoir que une des incidences du cannabis, c'est des changements d'humeur très brusques, très soudains et qui peuvent être très violents, y compris physiquement. Ça induit aussi une certaine procrastination. Je ferai ça demain. Puis le lendemain arrive, je le ferai demain. Puis en fait, ils font jamais rien. Si jamais ils faisaient du sport, ils arrêtent de faire du sport. Enfin, voilà, la molécule du THC, ça détruit les neurones quand même. Et bien évidemment, tous les ados qui fument 1, 2, 8, 9, 10 joints par jour gèrent. Il y a aucun problème pour eux.
Oui, bien sûr.
Ah, oui.
Ils sont pas conscients. Ouais.
Bah non.
Alors, c'est quoi là, sans dévoiler complètement la méthode de... Mais ça, c'est basé sur quoi? Comment vous arrivez à des... Vous arrivez quand même à un taux de résultat, j'ai vu sur votre site, de 85%, 86%.
86%, oui.
Dans l'addiction au cannabis, c'est énorme. Quel est votre secret?
Moi, ce qui m'inquiète plus, ce sont les 14% d'échecs. Mais bon.
Oui.
Alors je vais répondre. Ça serait bien, mais bon, ça marche pas à tous les coups. Alors, sans trop rentrer dans les détails, on travaille énormément sur la peur.
Oui.
On leur fait peur. Très très peur.
Voilà. Peur des conséquences pour eux ou peur des représailles justice de...
Peur tout court.
Peur tout court.
Ouais.
D'accord.
Donc avec la complicité totale des parents, avec la bénédiction des parents même. Et je peux vous dire que quand un ado arrête de fumer, au bout d'une semaine, déjà, vous récupérez votre gamin. Il est un peu plus comme avant.
Et vous leur faites faire par exemple des contrôles d'urine réguliers.
Oui, contrôle, on leur fait d'abord la peur de leur vie, ensuite contrôle régulier, analyse d'urine, pipi dans un verre.
Ils acceptent.
Ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix. Mmh. Parce que s'ils font pas, qu'est-ce qui se passe?
On leur a fait peur auparavant.
D'accord, d'accord. Donc c'est un mécanisme bien
bien rodé.
Bien rodé et c'est avec d'excellents résultats.
Oui. Mmh.
Alors. Oui, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a parfois des parents qui sont trop cadrants, trop cadrés?
Ah oui.
Et est-ce que ça peut poser des problèmes, justement?
Alors moi, je dirais, dans ces cas-là, heureusement que ça pose des problèmes.
Oui.
Parce que sinon, si le but, c'est d'élever un poisson rouge, autant le mettre dans un bocal. Oui, des fois, il y a parfois des parents qui sont beaucoup trop stricts, qui confondent autorité et autoritarisme. Et ça, c'est terrible.
Et le résultat est le même que si on n'était pas assez strict, par exemple?
Le résultat est le même que si on n'est pas assez strict. Non, c'est différent.
Un manque d'autorité, ça peut être un problème aussi.
C'est un problème.
Un cadre trop cadré, trop serré, ça entraîne d'autres types de difficultés ou...
À peu près la même chose, mais je trouve que c'est moins difficile. Qui peut le plus, peut le moins. Donc il suffit juste de relâcher un petit peu, de permettre à l'ado de respirer. Je me souviens d'un ado à 17 ans, il fallait qu'il rentre le week-end, il fallait qu'il soit à la maison à 18h. Ça va, quoi. En plus, il faisait rien de mal, il travaillait pas trop mal à l'école, il fumait pas... C'est du sport, mais voilà.
Oui, donc dans ces cas-là, ça provoque une rébellion.
Et heureusement.
Qui peut être qui est légitime. Finalement.
Et heureusement. Ouais. Et les parents comprenaient pas du tout pourquoi il était un peu énervé, l'ado. Lui me disait, mais il faut que je rentre à 19h, je rentre à 19h15, je me fais pourrir, je peux rien faire, je peux pas aller en soirée avec mes potes et tout. Il était sain, il travaillait pas trop mal à l'école, il fumait pas de cannabis, il faisait du sport, il était sympa, il était respectueux, mais il avait envie de vivre un peu, quoi. Alors, il pouvait avoir une copine, mais il fallait qu'elle vienne à la maison, mais qu'à 18h, elle parte, enfin bon.
Bon, j'imagine que vous rencontrez quand même plus souvent le cas inverse de parents qui sont pas assez cadrants que de parents trop cadrants, non?
Quand même. Ouais. C'était une bonne question, en tout cas.
Ouais, c'est là où on vous demande d'intervenir. Est-ce que vous avez des grandes tendances, en fait? Bon, ça fait quelques années maintenant que vous faites ce métier, ça fait plus de 15 ans que vous êtes...
Consulté Duc depuis 2009, et oui, alors après, l'internat, je sais plus, 2000, je sais plus.
Est-ce que vous voyez des évolutions en fait dans les profils des jeunes, ou par exemple le cannabis? Je suppose que c'est de plus en plus fréquent. Il y a l'alcoolisation aussi. Est-ce que vous en avez pas encore parlé?
Pas beaucoup.
Est-ce que c'est un problème?
Non. Alors le cannabis, beaucoup de parents sont déjà passés par la case des psys. Alors moi, faut savoir que je n'ai jamais vu un ado rentrer dans le bureau d'un psy puis dire bonjour, je suis addict au cannabis et je voudrais arrêter. Que dois-je faire? Ça n'existe pas. Et donc le rôle des psys, c'est de trouver le pourquoi, et nous on est dans le comment. C'est-à-dire que pour moi, le cannabis, c'est très simple. Il y en a partout, dans le moindre village en France. Et des fois, j'interviens dans l'arrière-pays de Beauvais, un petit village dont je tairai le nom, mais voilà, le village, il y a du cannabis, et le village d'à côté, il y a le dealer. Mais ce sont des villages. Il y en a partout.
Ouais.
Donc la seule raison, c'est qu'il y en a partout. Et puis c'est convivial entre eux, voilà.
Oui, c'est complètement banalisé maintenant.
Ouais, c'est cool. Petit pétard le matin avant d'aller en cours, quand si jamais ils ont réussi à se lever, à midi, en sortant du lycée, je vous laisse imaginer la suite. Quand je dis c'est cool, c'est ironique, hein, c'est pas cool.
Et en termes de milieu socio-professionnel, bon, vous avez travaillé longtemps dans le 94, plutôt dans des zones de cité, etc.
Oui.
Maintenant, alors, vous êtes plutôt du côté de l'ouest parisien, enfin, et vous intervenez partout finalement.
Oui.
Alors. Est-ce qu'il y a des grandes différences?
Non. Non, puis là, il y a un phénomène d'identification, c'est-à-dire vous avez beaucoup de gamins du Vésinet, du 16e arrondissement, qui s'identifient aux jeunes de cité.
Ouais, parce que ça fait bien.
Parce que je sais pas pourquoi. Sauf qu'ils sont pas du tout dans cet univers, et eux se font capter par contre par certains jeunes de cité qui savent très très bien ce qu'ils font et quel genre de jeunes ils captent, pour pouvoir justement notamment vendre du cannabis ou les faire participer à des actes de délinquance, quoi.
Donc finalement, vous rencontrez autant de problèmes dans les familles où on pourrait imaginer que tout se passe bien, que les parents sont présents, qu'ils ont une bonne situation, etc. Il y a autant de problèmes que dans les milieux défavorisés.
Ça n'a rien à voir avec l'argent.
Ouais.
Rien à voir.
Peut-être au contraire, même parfois, quand il y a trop d'argent, c'est pas...
Non,
c'est pas terrible non plus.
Non, c'est complètement indépendant du revenu net annuel.
Ouais. Après, c'est plus lié aux attitudes en fait des parents, aux attitudes éducatives. C'est ça qui compte finalement.
Oui, et puis à l'environnement, quoi. Et après, on ne sait pas pourquoi un jeune va commencer à regarder des clips de rap avec des kalachnikovs et des billets qui tombent tout seul du ciel, et des filles en maillot de bain.
Ouais. Alors, on va faire une dernière pause musicale, et cette fois-ci, on va écouter une des musiques que vous avez écrites, composées, chantées.
Voilà, c'est ça.
Ça s'appelle comment?
Dans la ronde des masques.
Dans la ronde des masques. On y va.
7 heures ce matin, il fait encore nuit. Les rues sont glissantes à cause de la pluie. Les phares des voitures me réveillent à peine. Je somnole en rêvant aux sirènes. J'ai perdu l'habitude de me lever si tôt. Et ce froid polaire qui me glace les os. Quelques gouttes perlent sur mon front. Le bus arrive et je fais un bond. Le jour se lève et tous les sièges sont pris. Je vais rester debout, tant pis. Le métro vomit un flot quotidien. Comme un exode sans fin. Alors je sais que je ne pourrai jamais entrer. Alors je sais que je ne pourrai jamais entrer. Dans la ronde, dans la ronde, dans la ronde des masques. Neuf heures, ça y est, j'arrive au bureau. Ils sont déjà tous au boulot. Je vais me prendre un petit café, j'essaye de me réveiller. Midi, j'ai faim, c'est l'heure du repas. Une heure ne me suffira pas. Avec un seul ticket restaurant, j'aimerais manger mieux, prendre le temps. Alors je sais que je ne pourrai jamais entrer. Alors je sais que je ne pourrai jamais entrer. Dans la ronde, dans la ronde, dans la ronde des masques. Le temps s'arrête, les heures s'étalent. Sur le mur, des cartes postales. Les vagues meurent sur le rivage. J'ai les embruns sur le visage. 6 heures la fin, juste une envie. Rentrer chez moi, partir d'ici. Me coucher tôt, manger sans faim. Je remets ça encore demain. Que je ne pourrai jamais entrer. Alors je sais que je ne pourrai jamais entrer. Dans la ronde, dans la ronde, dans la ronde des masques. Alors je sais que je ne pourrai jamais entrer. Alors je sais que je ne pourrai jamais entrer. Dans la ronde.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio Anguien avec Isabelle Gons et Hervé Curevert, mon invité d'aujourd'hui pour Consulte Éduc. Alors il nous reste quelques minutes avant de finir cette émission. Donc je rappelle les cas où vous intervenez, Hervé Curevert, c'est très varié. Hein, oui. Ça va des problèmes d'autorité aux problèmes avec le cannabis, les échecs scolaires des jeunes.
Voilà, décrochage scolaire.
Décrochage scolaire. les filles, les garçons, tous milieux sociaux finalement.
Les ados, les enfants, les petits-enfants.
Même les petits-enfants, ouais. Ouais. Alors, on n'a pas trop parlé de ça. Est-ce que vous avez peut-être un petit exemple à nous donner avec un enfant
Oui, qui... bah, ça va rejoindre ce qu'on disait précédemment sur les mécanismes éducatifs. Hein. C'est encore plus facile à appliquer. Plus ils sont petits, plus c'est facile.
Oui, on peut modifier plus facilement les, les choses. Prendre
Oui, ils sont éducables. Ils sont plus des zones vierges que quand ils sont plus âgés. Donc, c'est plus tôt on s'y prend, mieux c'est.
Ouais. Voilà. Et donc, vous intervenez à domicile avec.
Oui.
Alors, vous êtes. Mais combien de familles que vous suivez à peu près en même temps là actuellement?
En ce moment, en Île-de-France, peut-être une trentaine de manière récurrente.
Oui.
Et puis, je dirais, par région, on doit tourner à 15-20 de suivi par nos intervenants.
Et au fil du temps, vous avez aidé
plusieurs milliers
de personnes.
Je pense, Enfin, j'ai pas compté précisément, mais oui, je pense quelques milliers, oui.
Ouais. Donc, vous êtes dans un suivi aussi après à moyen terme, à long terme, ou une fois que ça va bien, vous n'avez plus trop de nouvelles. Finalement.
Bah, c'est ça. Une fois que ça va bien, pas de nouvelles, bonne nouvelle, quoi.
Bon, tant mieux. Ouais.
Ouais, tant mieux.
Ça laisse de la place pour les suivants qui ont besoin de vous.
Hein. Oui. Exact.
Voilà. Écoutez, je crois qu'on a. Voilà, je suis un peu à court de questions. Le téléphone, on va donner vos coordonnées. Bah oui. Pour vous appeler, puisque finalement, c'est ça le plus important. Donc, votre site internet, c'est www.consultant-educatif.fr. Mm-hmm. Et votre téléphone, donc on vous appelle sur votre portable au 06 99 82 87 80.
Voilà.
Hervé Curevert, donc toutes les régions de France. Et vous
moi, je redispatche aux différents intervenants. Et pour l'Île-de-France, c'est moi. Et quand on m'appelle, il ne faut pas hésiter à me laisser un message. Et je rappelle très, très rapidement. Sur le site, il est écrit que nous rappelons sous 48 heures.
Vous êtes extrêmement réactif. Hein, c'est ça aussi qui est votre point fort. Vous venez à domicile, vous êtes très réactif, très impliqué.
Et je précise que nous venons à domicile en journée, en soirée, en week-end, en jour férié.
Ah oui.
D'accord. Bah, hier, mon dernier rendez-vous, il était à 22h30, parce que,
Oui, c'est sûr que si on veut voir toute la famille, si on veut voir les gens, ça doit être aussi dans la soirée, quoi.
Voilà.
Ouais, donc ça, c'est un service très, très souple. Mm. Bon, bah, écoutez, cette émission se termine. Je vous remercie beaucoup.
Ben, c'était un plaisir, merci.
De nous avoir fait partager tout ça. Alors, avant de finir, je voulais vous annoncer, pour ma part, un événement qui va avoir lieu le 30 mai, qui pourrait intéresser certains de nos auditeurs. Il s'agit de la soirée de Radio Médecine Douce. Bon, je sais bien, c'est une radio concurrente, mais ça n'empêche pas. Qui a lieu donc le 30 mai à l'Espace Cardin, à Paris, dans le 9e. C'est une soirée sens et expérience, à laquelle on peut s'inscrire donc en allant sur le site de la radio, dans laquelle il y aura des exercices sur la méditation, la voix, éprouver sa fluidité, le yoga du rire, enfin des tas de choses très sympas, très intéressantes. Donc une soirée à ne pas manquer, près des Champs-Élysées. Je vous invite, chers auditeurs, à vous proposer les idées de sujets que vous aimeriez voir traités à l'antenne. À nous appeler bien sûr pour poser des questions, pour également faire part de vos témoignages. Et je tenais à vous remercier donc Hervé Curevert d'être venu aujourd'hui.
Oui, c'est moi qui vous remercie.
Merci également à Alex qui a assuré la technique avec nous aujourd'hui. Et je vous propose de nous retrouver pour une nouvelle émission dans 15 jours, dont le thème vous sera annoncé à ce moment-là. Merci, bonne semaine à tous. Au revoir.
Au revoir.